Le miroir. Il est un objet que tout le monde possède, qui sert de meuble dans nos maisons, qui est notre indispensable compagnon de voyage et que nous entourons de nos soins particuliers, car il est très fragile. L'usage de cet objet est universel. On le trouve dans le palais des rois et dans l'échoppe des cordonniers. Nul logis n'en est dépourvu, et il est même devenu de mode, depuis longtemps, d'adorner les maisons récemment construites et d'attirer les locataires par l'appât de ce meuble unique, comme on attire dans les champs les perdrix au moyen d'un miroir. Le miroir, j'ai dit le mot, et il n'y a pas moyen de garder plus longtemps le mystère. N'ai-je pas raison de dire que de tous les objets utiles, c'est le plus universellement répandu? Les orientaux n'ont ni chaise ni table, mais ils ont des miroirs. L'Africain lui-même, quoique vêtu d'une façon si sommaire, porte un miroir suspendu en amulette autour de son cou. Ouvrez le sac à ouvrage de la jeune fille, vous y trouverez un miroir, ce qui ne vous étonnera guère. Mais vous en trouverez un aussi dans le sac du soldat. Monsieur et madame, avant de partir en soirée, consultent leur glace. Mais je ne suis pas sûr qu'à la cuisine, derrière la porte, à l'endroit où Jeannette suspend son balai, on ne puisse trouver un morceau de verre étamé dans lequel, pendant le jour, elle jette plus d'un coup d'œil à la dérobée. L'origine des miroirs remonte à la plus haute antiquité. Avant que le verre fût inventé, on les fabriquait avec des métaux polis, or, argent ou bronze. Le premier miroir, ce fut sans doute la source d'eau limpide sur laquelle Ève se pencha et où elle vit étonnée sa ravissante image. À quel goût, à quel besoin ressenti par tous les hommes, le miroir répond-il? L'homme veut se connaître lui-même. De tous les objets qui peuplent l'univers, il est à ses propres yeux le plus intéressant, et cependant il est de tous le plus difficile à connaître. Nous pouvons voir le visage d'autrui sans autre instrument que nos yeux, mais il faut un miroir pour voir notre propre visage. Observons ceci en passant. Si l'homme sans secours étranger ne peut contempler son image, comment, livré à lui-même, connaîtra-t-il son propre cœur? Les anciens représentaient la vérité sous la figure d'une femme sortant d'un puits, un miroir à la main. Le miroir, en effet, nous dit la vérité. Il n'est pas de ces amis commodes et flatteurs qui n'ont garde de nous signaler nos imperfections. Impartialement, il nous dit ce que nous sommes, ou plutôt, puisqu'il ne peut refléter que notre image, ce que nous paraissons. Notre sourire ou notre colère, nos cheveux blancs ou nos boucles d'or, tout est fidèlement reproduit. Heureux qui ne se regarde pas avec des yeux prévenus et sait se voir tel qu'il est. Mais je crains, entre nous, que ce ne soit le petit nombre, oui, je crains que l'amour de nous-mêmes soit notre mobile plus que l'amour de la vérité. Soyons francs, auditeurs, auditrices. Avouons que ce n'est pas nos rides que nous cherchons dans le miroir, à moins que ce ne soit pour les dissimuler. Mais ce que nous y voyons bien, ce que nous y cherchons sans cesse, c'est un certain charme qui, hélas, s'en va tous les jours et n'est plus guère visible que pour nous seuls. Dans ce miroir, toujours le même, mais dont la dorure est ternie, flotte à nos yeux je ne sais quel rêve, une apparition d'autrefois, la fraîche et joyeuse figure que nous avions à 20 ans. Il y a deux sortes de gens qui ne se servent pas de miroir. Les premiers, ce sont les aveugles, et les seconds, ce sont les pauvres disgraciés à qui l'illusion n'est pas possible et qui, plutôt que de constater leur désolante laideur, jettent un voile sur l'ami trop sincère qui la leur dénonce sans cesse et ne peut les en délivrer. Mais d'où vient qu'étant si avides de voir notre visage, nous le soyons si peu de voir notre cœur? S'il est vrai que l'homme éprouve le besoin de se connaître lui-même, pourquoi ne cherche-t-il pas à se connaître tout entier? Car si le visage est le reflet de l'âme, ce reflet est bien imparfait. Il y a des profondeurs en nous que nos yeux ne trahissent pas. Que de souillures qui ne montent point à nos fronts, que de douleurs qui se cachent sous nos sourires. Où trouverons-nous le miroir qui nous révélera cet être intérieur, le seul en somme qu'il vaille la peine de voir, puisqu'il est immortel? On pourrait dire à la rigueur que la conscience est le miroir de l'âme, Tout homme, en effet, vient au monde avec un sens moral, un sens qui le distingue radicalement de la bête et qui le rend capable de discerner le bien du mal, c'est-à-dire la beauté de la laideur morale. Ah, si chacun voulait consulter sa conscience, si comme à un miroir nous lui demandions chaque jour ses avis et ses directions. Et pourtant, la conscience n'est pas un miroir parfait, car elle n'est pas toujours d'accord avec elle-même. À l'âge de 10 ans, notre conscience nous interdisait ce qu'elle nous accorde aujourd'hui sans difficulté. La conscience du Chinois et celle de l'Européen ne se ressemblent pas. La conscience du chrétien et celle du juif leur commandent souvent des devoirs opposés. Jadis, les inquisiteurs obéissaient à leur conscience en faisant brûler les hérétiques, et ceux-ci obéissaient à la leur en mourant sur le bûcher. Il y a dans toute conscience une parcelle de vérité, comme dans le moindre fragment de miroir on peut trouver une partie de son image. Mais, hélas, cet organe si délicat a été déformé par la mauvaise éducation, par les préjugés, par les superstitions, par 1000 causes. L'homme est tombé et sa conscience, miroir fragile, s'est brisée en 1000 morceaux. Dans quelques pays qui jouent un grand rôle parmi les peuples, l'Angleterre, l'Écosse, l'Amérique, et dans certaines familles de notre pays qui sont aussi au premier rang par la moralité, l'intelligence et l'instruction, on trouve à la place d'honneur un livre remarquable, écrit dans les temps anciens par des hommes simples. Il renferme les plus hautes vérités mises à la portée de tous. Ce livre a pour but de raconter, après l'avoir annoncé d'avance, la vie d'un homme qui parut il y a 1800 ans sur la terre et dit « Je suis la vérité ». Jamais personne n'a su, comme cet homme-là, découvrir le cœur humain. D'une main impartiale, il a placé le miroir sous les yeux des pharisiens hypocrites. « Vous êtes, leur disait-il, des sépulcres blanchis, des vases lavés au dehors, mais au-dedans pleins de pourriture. Aux yeux des gens de mauvaise vie, il présentait l'image de l'enfant prodigue qui, poursuivi par la misère et le remords, vient se jeter dans les bras de son père. À tous, il montrait le miroir. À chacun, il disait « Tu es cet homme-là ». Et tous se reconnaissaient, les uns avec des grincements de dents, les autres avec des larmes de repentance. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la parole de Jésus-Christ, car c'est de lui que je parle, c'est qu'elle n'a pas vieilli. Les vieux moralistes sont morts, et leurs paroles sont mortes aussi. On les conserve, on les relit pour l'amour du grec et du latin. Mais qui donc aujourd'hui demande des conseils à Sénèque, à Épictète, à Platon lui-même? Sur 10 000 libres penseurs qui parlent de Socrate avec admiration, en est-il un seul qui puisse citer de lui une phrase entière? Aucun de ces gens-là n'a su trouver la racine du mal. Ils ont flétri les vices et les travers des hommes, ils n'en ont pas dénoncé la véritable source. Jamais aucun d'eux n'a dit « Réconciliez-vous avec Dieu, car c'est de votre révolte que sont sortis tous vos crimes ». Mais Jésus-Christ, le ressuscité, a mis dans sa parole une puissance divine. Elle est de tous les temps, elle reflète fidèlement l'image de tous les hommes. On ne saurait lire sérieusement la Bible sans entendre en soi retentir une voix accusatrice et sans se voir tel qu'on est, c'est-à-dire égoïste, rebelle à Dieu, condamné par l'éternelle justice. C'est pour cela sans doute que bien des gens n'aiment pas ce livre. Quand on a le visage rongé par un cancer, on n'interroge guère le miroir. À quoi bon? Le mal est sans remède, mieux vaut fermer les yeux et n'y plus penser. Oui, voilà pourquoi si peu d'âmes ont le courage de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Elles ont peur, elles ont honte. Pauvres âmes, elles ignorent que Jésus-Christ n'est pas seulement la vérité qui condamne, qu'il est aussi la grâce qui sauve. C'est ici qu'éclate sa divine originalité. Il illumine et transfigure quiconque le regarde. Il prend la forme du coupable et donne au pécheur la ressemblance de Dieu. L'homme de douleur, l'homme abandonné et misérable, l'homme dont le corps, le cœur et l'esprit ne sont qu'une plaie, l'homme qui subit l'enfer, le voilà. Quiconque veut voir comme dans un miroir la noirceur de son âme, qu'il regarde au Christ sur la croix, car c'est là qu'il a pris notre place, c'est là qu'il est le représentant de l'humanité perdue. Mais quel est celui qui, sortant vainqueur d'une tombe ouverte, semble toucher à peine la terre du pied et va bientôt s'élancer dans les profondeurs du ciel? Le bonheur éclate dans son regard, la sainteté illumine son front. Ah, quiconque veut, comme dans un miroir, contempler sa propre âme, rachetée, délivrée du péché, quiconque veut voir ce que le pécheur est devenu aux yeux de Dieu, qu'il regarde au ressuscité. J'ai vu un enfant au visage sali debout. Il pleurait, mais ses pleurs, loin de laver ses joues, ne faisaient que les enlaidir. Il arriva près d'un ruisseau, s'y pencha, il y vit son image, et prenant dans ses deux mains l'eau de la source, il y lava tout à la fois ses larmes et sa souillure. Auditeurs, lisez l'Évangile, approchez-vous de Jésus-Christ, venez à ce Sauveur qui a donné à tant d'âmes la vérité, la joie, la sainteté. Penchez-vous sur ce miroir fidèle. Demandez à l'Esprit de Dieu ses lumières pour que tout ce que vous devez savoir vous soit révélé. Ne discutez pas cette vérité éternelle. Toutes les protestations de la coquetterie ne sont rien en face du miroir. Que sert de vous croire bon si vous êtes mauvais? Acceptez le jugement que Dieu porte sur vous. Puis, lavez dans la source d'eau pure qui coule du calvaire, votre âme pécheresse, mais sauvée par la foi au mérite et à l'amour de Jésus-Christ.